Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 19 novembre 1986.
sienne, c'est pas convenable. Donc tu dois travailler, tu dois manger ta soupe, tu dois prendre ce qu'on te sert, et ne pas... Et ainsi de suite, vous voyez tous ces préceptes de... Tu dois être poli, tu dois... Quand tu rencontres quelqu'un, laisse-le passer devant, surtout quelqu'un de plus âgé que toi, laisse-le passer devant. Tu dois faire ça, mais la morale, tu te vois. Elle reste la morale, tu te vois. Je pourrais faire un néo-kantien. Je pourrais. Mais ça ne me satisfait pas du tout. Parce que c'est pas ça qui tient. Ça s'use, ça s'use. Puis je vois très bien que ça ne mord plus. Ce sont des quantités de jeunes d'aujourd'hui. Il y a une raison. Vous êtes attentif à certaines réactions. Le freudisme est né à cause de ça, il ne faut pas l'oublier. C'est à cause de Kant qu'est né le freudisme. C'est pas à cause de Saint Thomas. C'est à cause de Kant. Parce que le « tu dois » est devenu tellement impératif qu'il y a eu des refoulements terribles. Et on ne savait plus où aller. Alors c'est né de cela. Bon, il faut être attentif à ces réactions. Si on n'est pas avec Freud, Freud a eu quand même un sens très étonnant du malade. Quand il était à Sainte-Anne, Freud, thérapeute, il sait écouter. Il écoute le malade, c'est extraordinaire ça. À un moment, on ne l'écoutait pas du tout. On lui a séné des médicaments, et puis ça y est tout. Et puis on le mettait, on le clouait sur son truc. Freud était bien plus humain. Bon, il est faux quand il essaie de. D'en faire une philosophie, c'est pas juste, ça va pas, c'est trop court, c'est systématique, c'est des a priori, très bien, très bien. Mais il y a une réaction qui est pas mauvaise. Je crois que je ne peux plus, après Freud, revenir à Kant. Ça me semblerait un non-sens. Et complet. Papa, ça c'est comme, vous voyez, si on revenait à la scolastique décadente, maintenant, en se disant, reprenons les manuels, parce que ces manuels ont formé nos grands-pères et nos... Enfin, nos grands-pères. Les manuels talmistes. Alors reprenons ça, mais non, on voit que ça ne mord plus. Moi, je vous affirme, si je connaissais Saint Thomas uniquement par les manuels talmistes, c'est inintelligible. Prenez de temps en temps pour vous amuser, parce que c'est intéressant de faire l'expérience. Prenez Macquart. C'est le dernier. Emmanuel Thomiste, Maca, on l'a sûrement ici à la bibliothèque. Puis prenez-le en latin, c'est mieux. Il dit mieux les choses. Alors prenez Maca, puis alors vous serez dégoûté. Vous serez dégoûté. Ah, moi, je sais pas. Je sais pas, c'est possible que certains aiment bien ça. C'est possible. Il n'y en a plus beaucoup qui aiment ça. Mais c'est bon de voir ces choses-là, parce qu'avec elles, on ne comprend pas. C'est des ornières. Alors, on doit chercher sur quoi la philosophie éthique peut-elle se fonder. Quand on la fonde sur la nature, je dis non. Parce que la nature ne peut pas être le fondement immédiat. C'est le fondement ultime dans une vision de sagesse, je suis tout à fait d'accord. Le jour où vous supprimez la nature, vous supprimez l'éthique. C'est bien évident. Et c'est toute la grande discussion d'aujourd'hui entre une morale personnaliste et une morale de nature. C'est une fausse opposition, du reste, parce que la nature assume, la personne assume la nature. C'est une fausse opposition, mais c'est une opposition qui existe aujourd'hui. Alors il faut comprendre que dire une morale de nature en théologien, tout à fait d'accord. Mais en philosophe, n'avançons pas ça trop vite. Je découvre la nature humaine, du reste, par mes opérations morales. Je n'ai pas eu une intuition de la nature humaine avant mes opérations morales. Donc il faut génétiquement comprendre que c'est l'opération volontaire qui me pose le problème éthique. J'ai une expérience d'une responsabilité. Tant que vous n'avez pas l'expérience d'une responsabilité, le problème éthique n'est pas posé. me sens bien, c'est l'amour d'amitié qui nous tous là, qui est une expérience humaine que nous faisons très vite dans le monde d'aujourd'hui. Les jeunes ont besoin d'amis. Ça, c'est net, c'est très très net. Et c'est le premier dépassement de la vie. C'est le premier moment où ils ont l'impression de choisir quelque chose qui vient d'eux. Et c'est très important. Quand vous parlez aux parents dans l'ordre de l'éducation, comprenez qu'aujourd'hui, c'est très important d'aider les jeunes d'avoir des amis. C'est la seule manière de pouvoir les aider à aller un peu plus loin. Il faut comprendre ça parce que c'est le premier moment de leur expérience, de leur responsabilité. Il y a quelque chose de grand, de généreux dans ce fait de l'amitié.
Qui porte
porte sur l'ami. Ceci implique premièrement un amour spirituel. Tout choix implique un amour. L'amour n'est pas le choix. Mais le choix implique un amour. Un amour fondamental, vous voyez. Un amour fondamental. Et c'est très vrai, ça implique un amour fondamental. Et cet amour regarde un bien spirituel, la personne. Cet amour spirituel implique une certaine intelligence, une certaine connaissance. Et je dis bien, c'est un amour spirituel. Cet amour spirituel est lié à toute la personne. Quand j'aime, c'est toute la personne. Et c'est quand même l'amour spirituel qui est présent dans le choix. Cet amour spirituel va se nouer dans l'intention. Là, un problème très important. Le passage du bien à la fin, ce qui est capital. Le bien attire et la fin détermine. Ça spécifie, c'est un principe, la fin. Tandis que le bien, c'est la réalité. C'est la réalité qui m'attire. Le bien, il existe. Il existe. Le bien existe. La personne existe. Je ne vais pas aimer un idéal. Vous voyez comme c'est intéressant la confusion entre bien et fin qui m'attire. L'idéal. L'idéal, c'est quand je n'ai pas suffisamment distingué le bien et la fin. Alors, l'idéal, c'est une cause exemplaire. Ça passe dans le langage. Ah, il a un idéal de vie, on est sauvé. Attends donc ça craque. Parce que l'idéal, c'est pas réel, que voulez-vous. Ça dépend des jours. Il y a des jours où vous avez un idéal de vie. Ça va très très bien, tout est rose. L'aurore, toi de rose, c'est l'idéal, c'est merveilleux. Et puis il y a un nuage qui passe. Vous voyez plus rien du tout. Parce que l'idéal, c'est vous qui le forgez. La cause exemplaire n'existe pas. L'idéal n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? C'est le bien. C'est pour ça que c'est ça la grosse différence. Vous voyez, c'est très important pour toute la morale des valeurs. Il faut la situer. Et c'est la confusion entre bien et fin qui se fait à travers cette cause exemplaire. D'où naît la valeur? Parce que la valeur, c'est toujours lié à la cause exemplaire. Les valeurs, c'est un peu l'idéal. Je voyais hier quelqu'un qui, justement, recherche un peu toutes ces questions. Il dit, où est-ce que vous situez les valeurs? Où est-ce que vous situez les valeurs? C'est vrai, dans la philosophie de Le Sen, dans la philosophie de Max Scheler, les valeurs. Dans Maritain. Maritain essaie de situer les valeurs dans son éthique. C'est très intéressant, comme essai. Je ne crois pas qu'il a raison. Je crois qu'il faut situer les valeurs comme la redécouverte partielle dans une philosophie idéaliste de la fin, par la cause exemplaire. Une philosophie idéaliste maintient la cause exemplaire à la place de la fin. Mais la philosophie idéaliste a perdu le sens de la fin. Puisqu'ils ont perdu le sens du bien existant. Donc ils ont perdu le sens de la fin. Je ne peux pas savoir ce que c'est que la fin si je n'ai pas saisi ce que c'était que le bien. C'est à travers l'amour du bien que je découvre la finalité. Et je découvre l'intention de vie. Dans tout amour d'amitié, dans tout choix de la vie, il y a une intention de vie. L'ami est ma fin. Troisième aspect, cet ami que je choisis, le choix, le choix. Alors là, tout de suite, il faut bien comprendre, le choix qui peut porter sur des moyens, la fin. Je distingue la fin et les moyens. C'est une distinction très importante. La fin, c'est le bien absolu. Et le moyen porte sur un bien relatif. C'est ça le moyen, c'est un bien relatif, un bien ordonné à la fin. Je ne peux pas m'arrêter au moyen. Et alors, ce qui est très curieux, vous voyez, il y a du surplace dans l'amour. Parce que c'est immanent. L'ami, il est choisi. Non pas comme un moyen. Ce serait le déshonorer. Il est choisi comme ma fin. Il est choisi comme mon bien. Et donc le choix peut être à la fois un choix qui porte sur des moyens et un choix beaucoup plus profond qui va être le choix d'un ami. Vous ne pouvez pas choisir un ami en disant « Je te choisis parce que tu m'es très très utile, tu comprends ?»« Tu m'es très utile, comme ça je peux m'appuyer sur toi dès que j'ai besoin de quelqu'un qui doit faire telle ou telle chose, je peux te le demander. » Vous voyez, on utilise l'ami comme un moyen. Ce n'est pas l'amour d'amitié. C'est l'amour utilitaire. C'est l'amitié utilitaire. Ça existe. Entre des voleurs, ça existe. L'amitié utilitaire. Entre des gens qui doivent passer des examens. Le fort en thème et le fort en version. Ils s'unissent. Toi, tu es très calé là-dedans. Moi, je suis très calé. On arrivera à faire comme ça. C'est merveilleux. Ça existe beaucoup plus qu'on ne le pense. Cette espèce de canne réciproque, vous voyez. Alors c'est un amour utilitaire. On choisit l'autre comme un moyen en vue de réaliser quelque chose, en vue de l'idéal, hein, en vue de l'œuvre à réaliser. Mais alors, c'est la brisure de l'amour d'amitié, ça. Parce que l'ami doit être choisi comme un ami, donc pour lui-même. Et à ce moment-là, le choix rejoint l'intention et rejoint l'amour. Bon, ça, c'est intéressant à comprendre. Quatrièmement, l'exécution. Quand j'ai choisi le moyen, quand j'ai choisi, on va vivre ensemble, l'exécution, dans l'ordre de l'amitié. Vivre ensemble, ou tout simplement, réaliser le moyen de faire que mon intention puisse avoir tout son réalisme. L'exécution, elle est commandée par cet acte particulier qu'on appelle l'imperium. Je le mets exprès en latin parce que ça fait mieux. L'imperium, le commandement, fait ceci. Vous voyez que la morale kantienne, hein, qui prend l'imperium, fait ceci. En premier lieu, ça arrive en quatrième position. Dans une morale beaucoup plus réaliste et qui n'est pas la morale du devoir. La morale, c'est une morale de l'amour, ça ne peut pas être autrement. Une morale de l'amour qui s'incarne dans l'ami. Alors, à ce moment-là, je comprends que l'impérium, le devoir, c'est le devoir. J'ai un devoir de rejoindre le bien, j'ai un devoir, et ainsi de suite. De devoir, fais ceci, l'impérium. Et puis alors, l'impérium qui est lié à l'usage. Et si je rejoins le fruit dernier, je suis lié et je rejoins au bien que j'acquiers. Donc la joie. La joie et le repos. Je jouis du bien. Alors ça peut être différents aspects. Et ce qui est important, c'est de bien saisir. Alors, entre l'intention de vie et le choix, il y a le conseil. Ce qui est important, c'est de bien saisir que dans chacun de ces moments, il y a toujours intelligence et volonté. présent, le présent pour se demander pourquoi pour Suarez l'impérium est un acte de volonté et pourquoi Saint Thomas c'est un acte d'intelligence. L'impérium spécifie mon intelligence dans l'ordre de l'exécution. Il faut connaître l'exécution pour pouvoir s'y donner. Il y a une connaissance de l'exécution comme telle pour pouvoir s'y donner complètement. Pas plus, hein, parce que ça a été vu, ça. Ce qui est sûr, c'est que tout cela se réalise dans la lutte. Toujours. La grande bagarre. Et vous comprenez très bien pourquoi. Parce que, de fait, mon intelligence et ma volonté se réalisent à travers le domaine passion, tout notre psychisme et le domaine imaginaire, tout le domaine psychique, c'est ce qui fait obstacle constamment à ma finalité et à obtenir ma finalité et à rejoindre ma fin. Donc, les luttes, c'est le milieu psychique dans lequel se réalise tout ça. Il y a un milieu psychique pour chacun d'entre nous. Ce milieu psychique, il est fait de l'imaginaire et des passions. Et c'est cela qui constamment se dresse devant moi et quelquefois m'empêche d'avancer. Ça devient comme un mur. C'est vrai, ça, on a tous compris ça, on a tous connu ça, c'est pas la peine d'insister trop parce qu'on a une expérience quotidienne. L'expérience quotidienne de ça, c'est pas, l'expérience de des choses qui nous arrêtent, quoi. Ce qui nous arrête psychologiquement. C'est très confus. Mais c'est tout notre psyché, c'est tout ce milieu intérieur que nous portons. Alors, qui se favorise dans certains milieux. Pas c'est sûr. Il y a un laboratoire particulier, là, et qui fait qu'il y en a. Quand on est nombreux, ce laboratoire, ça chauffe plus vite. Alors là, c'est pas la chaleur animale, c'est la chaleur psychique. Ça chauffe très fort. Alors, c'est fait. Donc, ce milieu, il est fait, ce milieu intérieur, ce milieu interne, dans lequel se développe l'acte humain. Là, c'est une analyse, ça se développe jamais comme ça. Nous vivons le choix libre. Nous vivons ça constamment dans notre vie. Eh bien, ce choix implique ces éléments. Implique tout ça. Mais nous vivons toujours dans la complexité. Parce que ça, c'est l'analyse philosophique de ces différents moments. Et tout ça se réalise dans la lutte. Alors, regardons un tout petit peu ces éléments de lutte. Le barrage imaginaire et passionnel. Je crois qu'on peut dire que toujours, que tout barrage, tout ce qui arrête le passage de l'amour spirituel à l'intention de vie, ce barrage est un barrage toujours imaginaire. Dans ce sens-là qu'on a dit que l'imagination est la folle du logis. C'est au niveau moral qu'on dit ça. On ne dit pas ça au niveau artistique. Et on ne dit pas ça au niveau proprement philosophique. Au niveau moral, c'est très vrai que l'imaginaire fait monter des gros nuages. Terrible. C'est très rare que ce soit beau fixe. Des gros nuages affectifs, je n'ai pas voulu, que je n'avais pas encore digéré. Si je pouvais voir ça, mais en vrai. Alors, ça fait des. Alors, quand on se retrouve dans des situations analogues, immédiatement, c'est la tempête. Et on ne sait pas pourquoi. C'est ça qu'on appelle l'inconscient. Vous voyez ? L'inconscient, c'est tout ce que vous avez, c'est tout le vécu. L'inconscient véritable, c'est tout le vécu mal digéré, mal assimilé, qui est resté comme un obstacle, quelque chose qui est dû encaisser. Alors vous avez l'inconscient du côté concupiscible et l'inconscient du côté irascible. C'est ce vécu que vous gardez dans votre imagination. Évidemment, je comprends très bien d'obstacles. Vous auriez voulu réaliser ça, vous ne l'avez pas réalisé. Tout, évidemment, dans ce vécu, l'autorité du père, et vous aviez un père particulièrement difficile, ce qu'on a tous eu, et l'autorité de la mère, c'est évident que ça a joué, et l'autorité d'un frère aîné, impossible. Ça a joué des autorités qui ont été les barrages tout le temps. Bon maman, hein, l'autorité, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand c'est l'autorité d'un adjudant, c'est encore pire. Alors ça c'est l'autorité, oui, parce qu'on a tous rencontré des adjudants dans notre vie, c'est bien évident. Il y a des choses particulières, c'est curieux ça, ce milieu dans lequel qui ont été des barrages, qui ont arrêté.
Et c'est le beurre.
conditionnement et de ma finalité. Si le conditionnement est tellement lourd en raison du passé que je n'arrive plus à émerger, à découvrir un véritable amour spirituel, je suis devant une situation limite. La situation limite, c'est quand le conditionnement est trop lourd. Un livre qui montre très bien la confusion entre le point de vue psychologique. se décompose. Tous les divorces. Il y a eu un amour d'amitié. Ils se sont mariés. Ils ont peut-être eu vraiment un moment. Et puis, il y a eu quelque chose. Alors, le déraillement, le plus foncier, c'est celui-là. C'est quand l'amour spirituel n'arrive pas à se fortifier dans une intention de vie. Et c'est l'imaginaire qui fait ça. Deuxième barrage différent, le passage de l'intention de vie au choix. Là aussi, c'est l'imaginaire. Alors là, un imaginaire beaucoup plus facile à saisir. Hein. C'est cet imaginaire-là. Le passage de l'amour spirituel à l'intention de vie qui est le plus difficile à saisir. Parce qu'il est très fondamental. Le nœud est très fondamental. Tandis que celui-ci, de l'intention de vie au choix, c'est plus facile. Parce qu'on voit des choix stupides. Ça existe, des choix stupides. Des gens qui ont l'intention de vie, ah, je veux la sainte. Qu'est-ce que vous avez choisi pour la santé? Vous voyez ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi l'escalier électrique pour la santé. C'est plus facile. J'ai découvert ça. Alors, c'est très curieux. C'est extraordinaire de voir ce passage de l'intention au choix. Là, on le capte. Parce qu'on peut saisir les choix. Et on les saisit vite, les choix. On voit vite. Comment quelqu'un organise sa journée, le choix qu'il fait, des moyens, ce qu'on peut choisir par rapport à la facilité, par rapport à l'efficacité. Dans le choix intervient ça. Donc, l'imaginaire joue là, très fort. L'imaginaire joue du passage du choix à l'imperium. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui choisissent parfaitement. Et puis quand il s'agit de passer à l'acte, il n'y a plus personne. Le soir, ils ont tout à fait décidé. Oui, je me leverai demain matin à 6h. C'est normal, j'ai décidé la chose. J'ai fait une retraite pour ça. C'était absolument, j'ai décidé.